Rien n'est joué.
Rien n'est joué.
Madeleine Caboche.
Avec tout à l'heure un reportage de Lydia Gabor. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, nous accueillons un physicien mondialement reconnu, directeur de recherche au CNRS, invité aux quatre coins du monde entre Japon, États-Unis et Finlande, Sébastien Balibar. Bonjour Sébastien Balibar.
Bonjour Madeleine Caboche.
Alors, vous savez, Sébastien Balibar, vous savez comment on est, nous, quand on prépare. Alors, on va d'abord chercher des biographies, puis on regarde. Et quand j'ai lu l'énoncé de tout ce que vous aviez fait, de vos distinctions, de vos travaux, de vos centres d'intérêt, je dis juste une au hasard en 76, hein, ça c'est le tout début de votre carrière, vous vous intéressez à l'évaporation quantique de l'hélium superfluide. Et là, je me dis, oui. Je vais rien comprendre de ce qu'il va me dire cet homme-là.
Ah oui. Mais j'ai écrit mes livres justement pour démontrer le contraire. Vous inquiétez pas. Je crois qu'au contraire, je peux expliquer ce que je fais à tout le monde.
Alors c'est ça que je vais dire à nos auditeurs, c'est que depuis trois livres, vous vulgarisez la physique. Il y en a eu deux autres avant, dont La Pomme et l'Atome, hein, 12 histoires de physique contemporaine chez Odile Jacob. Et celui qui va nous ravir ce matin, parce que c'est vraiment un petit livre à garder sur soi. Ça s'appelle « Je casse de l'eau et autres rêveries scientifiques » aux éditions Le Pommier. Et alors là, vous êtes habile parce que vous parlez de vous, de l'enfance, du vélo, de Kyoto, on se balade un peu et crac, quand on est bien accroché, vous nous envoyez une explication physique et là, on la gobe avec facilité.
Ah. Hein, et je vous prends un peu en traître parfois. J'avais déjà fait un peu le coup là, le livre précédent, vous voyez, je démarrais sur mes histoires personnelles. Mais, et puis je continuais sur de la physique difficile. Là, c'est de la physique facile, hein, c'est vraiment pour s'amuser. Mais je crois, vous savez, que j'ai envie de faire descendre les scientifiques de leur tour d'ivoire. Et donc, pour ça, je voudrais expliquer aux gens que même les chercheurs les plus professionnels, comme je suis quand même l'essentiel du temps, ils ne se prennent pas au sérieux, d'une part, pas forcément, en tout cas, heureusement. Et puis, ils pensent à leur science tous les jours. Donc, moi, c'est en jouant du piano, ou en faisant du vélo, ou même, je ne sais pas, en dans la main d'un enfant, ce qui m'émeut beaucoup. Oui, et j'ai envie de dire ça aux gens, que la science, il y en a partout. C'est pas abstrait, c'est pas embêtant, c'est parfois même très amusant.
Mais vous êtes d'accord, ils ont mis du temps à descendre de leur tour d'ivoire, les scientifiques, hein?
Oh, il y en a qui n'en descendent jamais, vous savez. Je suis exceptionnel, hein, faut le dire. Non, mais sérieusement, la science n'a pas très bonne réputation. Parfois, il faut dire qu'il y a des conséquences appliquées de la science qui sont terribles, parfois. Bon, même si je crois quand même que le bilan est plutôt positif, comme on dit. Bon. Et donc, c'est important d'expliquer aux gens ce qu'il y a comme science autour d'eux, quoi. Bon, pour leur faire comprendre que la science, c'est intéressant, comme je dis. Puis, c'est utile, quoi. Bon.
Puis, il y a eu cette période de l'histoire où on a beaucoup cru, on a pensé que ça allait changer le destin des hommes. Donc là, on était des scientifiques amoureux de la... Enfin, on était amoureux de la science. Et puis, c'est vrai, vous avez raison, elle est un peu comme ça, mal perçue, parce que elle n'a pas changé tout ce qu'on aurait voulu qu'elle change.
Les raisons de ça me désolent. Je les connais pas vraiment. Je pense qu'il y a une certaine désaffection, en fait, pas uniquement pour la science, un peu pour la connaissance tout court. Et qui m'inquiète. Je me demande si les gens, en fait, ils sont pas un peu passivement devant leur télévision au lieu de réfléchir un peu davantage. Et du coup, ils s'éloignent de la science. Ils voudraient prendre les choses comme si elles étaient vraies ou fausses, données, sans avoir besoin de réfléchir si c'est vrai ou si c'est faux, ou si c'est partiellement ceci, cela. Et donc, c'est toute une attitude que j'adore, moi. Et d'ailleurs, je monte dans mon livre, quand je suis sur mon vélo, je me pose des questions. Pourquoi je tiens debout? Quelle est la puissance fournie par mes muscles? Mais je trouve ça intéressant, quoi. Et je crois que je suis un peu anormal, peut-être, pas comme la moyenne des gens, et j'aimerais essayer de rattraper un peu l'intérêt du grand public pour la science.
Alors Sébastien Balibar, pourquoi on tient debout sur un vélo?
Ah, ça c'est très compliqué. Mais vous savez, oui, c'est un problème de mécanique compliqué. La mécanique, c'est souvent compliqué. Bon, des histoires de force qui se compensent, tout ça. Bon, mais j'explique ça en 4-5 pages. Mais il faut dire que, comme vous savez, c'est un livre sur ce qui m'amuse et mes passions dans la vie. Et donc, le vélo, c'est clairement l'une d'entre elles. Bon, donc, comme il y a beaucoup de vélos, j'ai pas pu éviter la question pourquoi on tient debout sur un vélo. Bon. Et c'est un peu mystérieux et surprenant. Vous savez, à Paris, en tout cas, il y a maintenant des vélos en location qui s'appellent les Vélib. Et alors, les gens, ils louent leur vélo pour aller, je sais pas, travailler. Hein, et ils ont un espèce de sourire parce que ça leur rappelle l'enfance quand ils ont réussi à tenir debout. Et je pense que tout le monde est émerveillé par le fait que on tient debout sur la tranche des pneus, là, ça n'a pas l'air bien large, et pourtant, on y arrive. Mmh. Bon. Et donc, tout le monde a un peu envie de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est pas si simple, hein, voilà. Mais après tout, quand on tient debout sur deux pieds, on tient debout aussi. Hein. Mais sur un vélo, il y a quelque chose en plus. Alors, j'explique que ça tient beaucoup, en particulier, à la forme de la fourche. Hein. Ah oui, c'est bon.
Sans que vous osez pas expliquer vraiment, vous avez peur que ça soit trop compliqué. Allons-y, moi j'ai envie de comprendre pourquoi on
tient. Vous voulez que j'explique ça ?
Ouais, bah oui.
Ah bon ?
Ça vous ennuie ?
Alors, allons-y. Eh bien, d'abord on tient debout essentiellement parce que on contrôle, hein, on a les mains sur le guidon et on rattrape toujours on se débrouille toujours pour que le poids, si vous voulez, soit au-dessus de la surface de contact. Alors pour ça, on peut tourner un peu le guidon à droite, à gauche, selon qu'on penche ceci, cela. Mais vous savez qu'on peut aussi faire du vélo en lâchant le guidon.
Oui.
Et quand on lâche le guidon, eh bien, on arrive à tenir debout quand même. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a une petite force qui, quand le guidon tourne, le ramène droit.
Ouais.
Et d'ailleurs, vous savez, si vous avancez, vous marchez, vous tenez votre vélo par la selle, par exemple, vous avancez. Mm-hmm. Si vous avancez, votre guidon reste droit. Mais si vous reculez, votre guidon se met en travers. Vous avez remarqué ça ?
Tout à fait.
C'est un peu comme quand on conduit une voiture et qu'on a une remorque derrière. Si vous avancez, la remorque reste derrière votre voiture. Mais si vous reculez, oh là, faut faire attention, autrement la remorque se met en travers. Eh bien, c'est une histoire de frottement au sol, de force de frottement qui s'exerce dans un sens ou dans l'autre, selon qu'on avance ou qu'on recule, et qui va faire tourner la chose. Bon, alors j'explique ça. Bon,
mais
il y a quelque chose encore en plus.
Ouais.
Il y a quelque chose encore en plus qui est que quand on se penche, mettons à gauche. Il y a une petite force qu'on appelle gyroscopique qui fait tourner le guidon. Mmh. Et quand le guidon tourne, eh bien, à ce moment-là, la trajectoire du cycliste fait une courbe, quoi. Mmh. Et donc, quand on tourne, il y a ce qu'on appelle la force centrifuge qui vous ramène dans l'autre sens. Mmh. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de forces, je vous en ai cité deux, une histoire de frottement et une histoire de force centrifuge et gyroscopique. Bon,
ouais,
bref.
Ouais.
Mais vous rassurez-vous, là vous me forcez à utiliser des termes scientifiques,
oui.
mais dans le livre c'est pas comme ça.
Dans le livre c'est archi simple.
Donc il y a des forces qui vous aident à tenir debout, voilà. Donc en gros, la moralité, si vous voulez, c'est que sur un vélo, on tient debout parce qu'on est tout le temps en train de rattraper quand on tombe. D'ailleurs, c'est pareil quand on est debout à pied. Hein. Si vous vous penchez, bah, vous faites un petit effort, vous remettez droit, quoi. Mmh. Bon. Mais il y a des forces qui vous aident à le faire. Donc effectivement, quand on a appris à faire du vélo, ben, on y arrive plus facilement que quand on n'a pas acquis ces réflexes.
Vous avez vu, j'ai dû insister pour vous expliquer quand même.
Oui, mais il faut dire que ce petit chapitre m'a donné plus de travail que les autres parce que c'est une affaire très compliquée, la stabilité du vélo. Quand je parle de la couleur du ciel ou de la forme des nuages, je suis plus à l'aise parce que c'est plus facile.
Bon, ben, on va parler de tout ça, on a du temps devant nous. Juste pour revenir sur l'histoire du vélo. Je disais, dans ce livre vraiment magnifique, en plus avec des dessins superbes de Jean Kerleroux, qui est le dessinateur du Canard Enchaîné, Je casse de l'eau. Effectivement, il y a des petits bouts, on est avec vous sur le vélo, à Kyoto, au col du Lautaret, les fameux cols du Tour de France. Et puis, sur l'autre livre, La Paume et l'Atome, j'ai appris qu'en fait, vous aviez bien regardé les canards sauvages pour résister contre le vent, pour mieux pédaler.
Ah oui, c'est dans l'autre livre ça que je raconte ça. Oui, quand je fais du vélo, en fait, on part en peloton avec des amis le dimanche. Bon, en fait, on s'entraîne pour faire les cols l'été. D'ailleurs, je fais faire parfois des cols en Suisse, qui j'aime beaucoup, le Nufnen Pass. J'ai un souvenir terrible du Nufnen.
Ouais,
Il faisait chaud, c'était abominable. Bon, donc on roule en peloton. Et alors, vous savez, en peloton, les cyclistes, ils se mettent les uns derrière les autres afin de bénéficier de la protection, la protection du vent par celui qui est devant. Bon.
Ouais.
Et en fait, les canards, ils font la même chose et c'est pour ça qu'ils volent en groupe. C'est qu'en groupe, ils vont plus vite que tout seul parce qu'ils sont dans le creux hydrodynamique du celui qui est devant. Bon. Mais j'ai remarqué qu'en vélo, bon, on fait, mettons, du 40 km/h, ce qui pour un vieil amateur comme moi n'est pas si mal.
Oh, c'est
Bon.
bien.
Ah oui, hein, je suis
Oui,
fort.
oui.
Hein. Bon. Et donc, on fait du 40 à l'heure, bien, c'est quand même assez vite. Mais pour être bien dans le creux hydrodynamique du type qui est devant, il faut être à 5 cm, quoi. Bon. Et donc, 5 cm à 40 km/h, c'est quand même assez délicat. Il faut, il faut pas taper dans la roue de l'autre, autrement, à 40 à l'heure, on tombe, quoi. Bon, on se fait mal en plus.
Mais les
Bon.
canards sauvages,
Et
ils se
donc.
rentrent jamais dedans, eux.
Eh ben, je ne sais pas très bien comment ils font, mais moi, qui suis moins doué que les canards sauvages, j'ai une astuce pour rester dans le sillage de mon voisin, c'est que j'écoute le vent dans mon casque. Alors, vous savez, le vent chante hein, dans les mâts des bateaux, dans les tout ça. Bon, c'est parce que le vent qui passe sur les mâts des bateaux, il émet des petits tourbillons, un à droite, un à gauche, alternativement, comme ça, à une fréquence qui dépend de la vitesse du vent. Donc, quand le vent souffle plus fort, ça chante plus aigu. Quand le vent souffle moins fort, ça chante plus grave. Bon, donc quand je suis juste derrière, au bon endroit, derrière mon copain cycliste, en fait, j'ai moins de vent. Donc, le bruit dans mon casque est plus grave. Et si je m'écarte un peu, je prends plein de vent dans la figure parce que mon copain ne m'abrite pas. Et donc, j'ai plus de vent, le vent et le son est plus aigu. Donc, en fait, je fais de la physique, de l'hydrodynamique, l'histoire d'instabilité de monsieur qui s'appelle Fankerman, qui est très connu chez les physiciens. Bon. Et donc, c'est grâce à ça qu'en écoutant la hauteur du bruit que fait le vent dans mon casque, il y a des petites lanières à côté des oreilles qui émettent donc ces petits tourbillons, voilà. J'arrive à ajuster ma position à quelques centimètres près au bon endroit pour avoir le moins de vent possible. Et ça me fait penser au canard sauvage, voilà. Donc vous voyez, je suis un physicien qui n'arrête pas de penser à sa physique, mais une physique qui n'empêche pas de penser aussi au canard sauvage.
Le vélo, dites donc, c'est dangereux, hein, parce que dans le premier livre, La pomme et l'atome, vous avez un charcutier qui brûle un stop et vous avez la figure
Ah, mais
abîmée.
vous avez tout lu, hein. Formidable, oui.
Et dans celui-là,
Oui.
c'est qu'est-ce qui vous
C'est une
arrive?
smart, ouais, qui me fait mal, ouais. Mais vous savez, dans ce livre, je disais tout à l'heure que j'ai voulu me faire plaisir en racontant ce qui me plaît, bon, ce qui m'amuse, et du coup, je me suis pris progressivement à faire mon autoportrait en racontant au-delà de la science ce qui m'amuse. Mais parfois, je pousse quand même quelques colères. Hein. Bon, il y a un certain nombre de choses qui, dans la vie, ne me plaisent pas. Par exemple, le fait que, je sais pas, les Américains gaspillent le pétrole, surtout dans la guerre en Irak, d'ailleurs. Bon. Mais il y a aussi un certain comportement que je n'aime pas, en particulier des automobilistes parisiens. Et alors, j'ai remarqué que Paris et Kyoto sont deux villes jumelées, mais la manière dont les gens se comportent dans une ville charmante, extrêmement civilisée, des millénaires de civilisation comme Kyoto, et la manière dont les gens se comportent à Paris est totalement opposée.
C'est-à-dire.
Alors, j'ai fait un petit chapitre là-dessus. La première chose qui change, c'est que à Kyoto, les cyclistes sont en fait considérés comme des piétons. Alors, des piétons mécanisés, mais le résultat, c'est que on partage le trottoir ensemble. Donc les cyclistes vont tranquillement sur le trottoir à côté des piétons et ça se passe gentiment. Donc quand il y a du monde, on se fait des politesses, on se laisse passer, on fait attention à ce qu'il y a autour pour ne pas se rentrer dedans, quoi. Bon, pour pas avoir d'accident. Alors à Paris, c'est le contraire. À Paris, on est considéré comme des voitures ou des voitures sans moteur. Bon, on est donc au milieu de la rue, et là, au milieu de la rue, c'est la guerre. C'est-à-dire que tout le monde est pressé. Il s'agit de passer toujours devant les autres, Et là-dedans, les cyclistes, évidemment, ils sont fragiles. Hein. Et donc, c'est aussi dangereux à Paris que c'est convivial à Kyoto. Et pourtant, ces deux villes sont jumelées. Donc, ça m'amusait de voir que le jumelage ne va pas jusqu'à l'échange de la civilité. Et puis, effectivement, de temps en temps, malheureusement, le cycliste a un accident, ça m'arrive. Et donc, je raconte ça aussi à un autre endroit.
Alors, Sébastien Balibar qui est avec nous. Donc, je le redis aux auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Je casse de l'eau, c'est aux éditions Le Pommier. Donc, à la fois des choses, des histoires de la physique, et on va y revenir. Venir tout de suite après la chanson, à savoir pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la mer est bleue aussi finalement, pourquoi est-ce qu'il neige, comment se fabriquent les flocons, il y a tout ça dans le livre. Mais avant qu'on continue à faire vraiment de la physique pure, je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien.
Dans le parc des Buttes-Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement, encouragé par son père et par sa maman. Il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petites roues qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Il tombe. Il retombe. Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique. C'est surtout vexant de tomber en public. Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout. Attention, il enfourche son bolide et c'est reparti pour la chevauchée intrépide. Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça falle. Il fait rien qu'à l'énerver ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, ça change rien, mais ça soulage. Sermon des parents, c'est vilain de faire des colères. Et faut être patient et avoir un bon caractère. Mais s'énerver, c'est légitime, faut se faire respecter des machines. Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires. Quand il démarre pas, je lui donne des coups de casse dans les phares. Alors ce gosse, faut pas le gronder, c'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tanguer se redresse et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale, le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle, mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Il arrache le garde-boue et les poignées en caoutchouc, la dynamo d'un coup de talon, puis piétine les rayons. Et il crève les pneus, il commence à se sentir mieux. Il fait rien qu'à l'énerver ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, la sonnette, bah il dégage. Mais faut pas faire de colère, alors écoute-moi bien. Plutôt que d'essayer d'arracher les caps des freins, fais levier avec un bâton pour pas te baiser les mains.
Je pensais qu'on allait écouter Jeanne Balibar, c'est bien aussi, c'est Benabar ça, hein, ça c'est Benabar.
Ah, oui.
C'est qui Jeanne Balibar?
Ah, c'est ma nièce, oui, c'est la fille de mon frère, oui, elle est actrice et chanteuse aussi d'ailleurs, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on attaque par quoi, Sébastien Balibar?
Donc, c'est comme vous voulez, hein. C'est alors, vous qui décidez.
Bon, alors si c'est moi qui décide, je voudrais savoir pourquoi le soleil crache des choses sur nous.
Ah oui, effectivement, eh bien, le soleil, c'est une énorme réaction nucléaire, hein. Et donc les réactions nucléaires, vous savez, ça émet beaucoup de radiation, c'est-à-dire à la fois de la lumière très intense et puis des particules. Et donc le vent solaire, c'est un flux de particules qui vient du soleil, dont beaucoup sont des particules chargées, c'est-à-dire c'est par exemple des électrons ou des protons, vous voyez, qui ont une charge électrique. Et il se trouve que comme la Terre a un champ magnétique, on sait bien, hein, les boussoles nous indiquent le nord à cause du champ magnétique de la Terre, ce champ magnétique a la propriété de faire tourner les particules chargées. Donc mettons les électrons, pour simplifier, qui viennent du Soleil parce qu'il y a des grosses réactions. En fait, ça ressemble à une grosse bombache, hein, le Soleil. Bon, même si ce n'est pas exactement les mêmes réactions nucléaires, c'est le même genre. Bon. Donc c'est... Et donc, ouais. Cette énorme explosion nucléaire permanente qu'est le Soleil nous envoie des électrons, mais heureusement, on en est protégé parce que la Terre a un champ magnétique et donc elle fait juste hop, tourner les électrons au moment où ils arrivent près de la Terre. Alors, c'est d'ailleurs ce genre de choses qui produit ce qu'on appelle les aurores boréales, vous savez, des espèces d'illuminations un peu verdâtres ou de différentes couleurs qui ont lieu dans la direction du nord quand le Soleil a des éruptions un peu violentement. Et donc, c'est grâce à ce champ magnétique que la vie est possible sur la Terre, parce qu'autrement, on serait irradié par toutes ces radiations qui viennent du Soleil, qui effectivement, en langage un peu vulgaire, nous crache dessus en permanence. Quand on est dans le cosmos, bon, les cosmonautes, par exemple, eux, ils n'ont pas de champ magnétique, donc ils se reçoivent plein de radiations.
Oui, c'est ça que j'allais vous dire.
C'est très, très dangereux d'être là-haut, très dangereux. Ouais.
Parce que je regardais hier soir à la télévision ces jeunes gens qui s'entraînent pour aller sur Mars, hein, où ils vont rester je ne sais pas combien.
Y a déjà des gens qui s'entraînent pour ça?
C'est ce que j'ai vu. Pourquoi vous dites les malheureux?
Parce que, justement, d'ailleurs, à un moment, je crois que j'ironise un peu là-dessus, oui, parce que c'est Bush, enfin, George Bush, qui, heureusement, va laisser le pouvoir. Ça fait partie de mes autres petits coups de gueule. J'aime pas beaucoup ce monsieur, qu'est-ce que vous voulez. Et donc, ils ont décidé de faire la conquête de Mars, donc d'envoyer des hommes ou des femmes, des humains, disons, sur Mars. Et moi, je trouve ça absurde, c'est extrêmement dangereux, ça va durer deux ans.
C'est vrai, hein. C'est très dangereux.
Oui, parce que pendant 2 ans, ces valeureux cosmonautes vont se prendre une dose d'irradiation considérable. Et donc, bien qu'il y ait des cosmonautes qui soient restés 1 an dans l'espace, dans la station spatiale internationale sans doute, et qui en soient revenus sans un cancer immédiat, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Bon. Donc, comme par ailleurs, je crois que ça ne sert à rien, qu'on ferait mieux d'envoyer des robots automatiques, ce qu'on fait en ce moment, qui nous ont appris des choses formidables sur la planète Mars. Et d'ailleurs, en apprenant plein de choses sur pourquoi Mars n'est pas exactement comme la Terre, et surtout, pourquoi Mars a perdu son eau, et pourquoi il n'y a pas de vie sur Mars, vous savez, les Martiens, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas, eh bien, on a appris beaucoup de choses sur la manière dont la vie est apparue, ou est possible, disons, sur Terre. Pourquoi est-ce que la Terre a gardé son eau et son atmosphère, et pas Mars, quoi, en gros. Bonne question, moi je trouve ça très intéressant.
Mais pourquoi, à votre avis, on envoie des humains plutôt que des robots?
Eh bien parce que je suppose que c'est pour des questions un peu, j'allais dire, de propagande. C'est pas gentil de dire ça, mais ça, c'est vrai que quand même, bon, envoyer quelqu'un sur la Lune, ça a frappé l'imaginaire. Bon, mais on l'a fait maintenant, et donc ce qu'a fait un homme en allant sur la Lune, un robot peut le faire. Beaucoup mieux, ça coûte moins cher, et donc je préfère envoyer des robots sur la Lune, et surtout sur Mars, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Bon. Voilà, donc à mon avis, ça sert à rien, donc ça fait partie de mes petits combats. J'essaye de dire que c'est dépenser beaucoup d'argent pour fabriquer une sorte d'aventure qui va frapper l'imagination des gens, mais qui est scientifiquement inutile. Donc je crois qu'on ferait mieux de ne pas le faire.
En plus, ce que vous dites, c'est que le plus gros risque aussi, c'est que ces cosmonautes qui partiront ensemble s'arrachent le nez.
Oui, alors, comme vous avez compris que dans ce petit livre, j'ai envie de m'amuser, mais ça, c'est très sérieux. En fait, je raconte souvent avec un sourire des choses qui sont très sérieuses. Et donc, effectivement, j'ai discuté avec des planétologues. Il faudra que je dise un mot des astronomes de Genève.
De Genève, c'est pour ça que je voulais. Mais finissons.
J'ai un ami très remarquable qui s'appelle Jean-Pierre Bibring, qui est l'un des leaders scientifiques des expéditions, des expériences sur Mars, qui justement ont trouvé pourquoi il n'y a plus d'eau. En fait, il en reste un peu en sous-sol, enfin bref. Et donc, avec Jean-Pierre Bibring, on parlait de ça, de l'étude de Mars et de sa conquête éventuelle, et il m'expliquait la même chose que je pense, à savoir qu'envoyer des robots, c'est bien mieux. Bon. Et donc, comme je lui expliquais, mais à propos, envoyer des cosmonautes pendant 2 ans dans l'espace, c'est très très dangereux, il m'a dit oui, c'est dangereux, il y a des chances qu'ils attrapent une leucémie, bon. Mais, à mon avis, disait-il, le pire, c'est que vous mettez 2, 3 ou 6 cosmonautes dans quelques mètres cubes. Ils sont partis pour 2 ans enfermés dans leur boîte. Bon. Ils n'ont même pas d'eau. à boire pour si longtemps. Donc, il faut recycler toute l'eau. Donc, l'urine, tout ça, il faut la rendre potable. Il faut boire l'urine de son voisin pendant 2 ans. Voilà, en gros. Hein. Et ça, on a rigolé parce qu'on était à Paris à une table de café. Mais je pense que c'est pas drôle. Et donc, il semble que le problème principal soit psychologique, à savoir vous enfermer 6 personnes dans 3 mètres cubes, obligées de boire l'urine du voisin, ça se termine très très mal.
Mais le précédent essai s'est interrompu à cause de ça, non ? Si j'ai bien...
Ah non, il n'y a pas eu d'essai. Pour l'instant, on a envoyé personne sur Mars.
Mais non, pas
on
sur
a
envoyé Mars,
on a envoyé des gens sur la Station Spatiale Internationale, qui est à mon avis un énorme gâchis, qui ne sert absolument à rien, dans lequel on a investi la communauté internationale 100 milliards de dollars. Bon, et ça ne sert pas à grand-chose. Là-haut, les cosmonautes, ils s'ennuient, ils s'étudient eux-mêmes, finalement. La chose principale que les cosmonautes font quand ils sont là-haut, c'est de s'étudier eux-mêmes. Est-ce qu'ils résistent aux conditions de l'espace et tout ça ? Moi, je trouve que ça ne vaut pas vraiment le coup d'envoyer des cosmonautes pour si cher là-haut, pour simplement s'étudier eux-mêmes, franchement.
Alors, soyons positifs dans les belles découvertes importantes. En effet, si je vous ai parlé du soleil qui crachait, j'avais envie qu'on parle des étoiles aussi. Et en effet, vous citez deux hommes dont on est très fiers en Suisse, Michel Mayor et Didier Queloz. Vous êtes fiers d'eux aussi, Sébastien Balibar ?
Fiers d'eux. Je les admire infiniment. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont fait une découverte absolument fantastique qui, à mon avis, nous change la vie. Bon, je veux dire, on a longtemps cru que la Terre, c'était le centre du monde, évidemment. Bon, puis on s'est aperçu que la Terre, bon, c'était un peu comme d'autres planètes, on tourne autour du Soleil. Bon, on est un petit peu plus modeste qu'avant. Bon. Mais récemment, on s'est aperçu que non seulement ça, mais en plus, des planètes, il y en a d'autres autour d'autres étoiles qui ne sont pas le Soleil. Bon. Et la première personne... En fait, ils sont deux, Michel Mayor et Didier Queloz, à Genève, astronomes à Genève, qu'ont découvert qu'il y avait d'autres planètes ailleurs autour d'autres étoiles. Ça s'est passé il y a 10 ans, il y a 15
ans. En 95,
enfin,
hein,
ouais. Oui, voilà, 95. Mm-hmm. Moi, je dis 95, mais c'est pareil.
Ouais.
Ils ont fait leur découverte en venant dans un petit observatoire qui est dans la Provence, la France du Sud-Est, là, bon. Un petit observatoire où ils ont fait tranquillement des mesures pendant une année entière dans un silence qu'à peine quelques grillons meublaient. Bon.
Quel genre de mesures
Alors, la manière dont ils ont découvert que cette étoile dans la constellation Pégase avait au moins une planète autour, c'est qu'ils ont regardé avec beaucoup de précision la couleur de cette étoile. Alors, vous savez, c'est un peu comme l'effet Doppler. Quand vous écoutez les pompiers ou une ambulance qui vient vers vous, le son est plus aigu que quand ça s'éloigne. Vous voyez ?
Oui, oui. Bon.
Eh bien, le son et la lumière, ça se ressemble, c'est des ondes tous les deux. D'ailleurs, à un moment dans le livre, je parle de l'oreille absolue et de l'œil absolu, parce que je trouve ça assez amusant, mais enfin, on en parlera peut-être plus tard. Et donc, les étoiles, quand elles s'éloignent, elles rougissent, et quand elles s'approchent de nous, au contraire, ou si elles s'approchaient, elles bleuiraient.
Bon.
Donc, si vous regardez la couleur d'une étoile avec beaucoup de précision, et ils l'ont fait, eh bien, si elle oscille, parce qu'il y a autour une grosse planète qui l'a fait osciller en tournant autour, eh bien, les oscillations de distance et de vitesse par rapport à nous de cette étoile font que sa couleur oscille aussi. Et donc, ils ont regardé la couleur avec précision, ils ont vu que ça oscillait, et ils en ont déduit qu'il y avait une grosse planète qui tournait autour de cette étoile. Alors, elle est gigantesque, elle est grosse comme Jupiter, je crois, mais elle tourne en 4 jours seulement. Donc, ça tourne vite. Hein. Et c'est pour ça que ça l'a fait osciller beaucoup et qu'on voit les oscillations de sa couleur. Moi, je trouve que ces deux astronomes sont géniaux. En plus, ils ont utilisé intelligemment un tout petit télescope qu'il y a des gens qui voudraient fermer. Moi, je trouve qu'il ne faut pas le fermer.
Donc, en Provence, à Saint-Michel, hein, c'est ça ?
Saint-Michel de Haute-Provence, ouais, c'est pas très loin de, comment dire, Avignon, par là. Oui. Et donc, je trouve ces deux hommes absolument remarquables. Il faut leur donner le prix Nobel. C'est la saison de faire des suggestions en ce moment. Moi, je suis pour leur donner le prix Nobel.
Mais donc, ça veut dire que... j'avais envie de vous demander ça au début, quitte à vous agacer. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions à résoudre ou est-ce qu'on a trouvé beaucoup de choses puis ça n'avance plus
en l'occurrence, vous voulez dire en science en général ou en physique
en particulier ?
Ah oui, vous me rappelez des tas de choses. La réponse est claire et clairement, oui, il y a plus on trouve des choses, plus on découvre de choses à découvrir. C'est extraordinaire. Et donc, vous savez, récemment...
Ah, c'est vrai, ça marche comme ça. C'est plus on trouve, plus on découvre.
Ben, c'est mon impression. J'ai peut-être tort, hein, mais je crois. Oui. Pourtant, au XXe siècle, on a découvert une quantité de choses fantastiques. À commencer par l'âge de l'univers, l'âge de la Terre, tout ça. La radioactivité, on a découvert toute la mécanique quantique, la relativité. Bon, c'est grâce à tout ça que, bien sûr, on peut se parler comme ça facilement. Vous, à Lausanne et moi à Paris, c'est au progrès fantastique de l'électronique et des télécommunications. Bon. C'est quand même des révolutions extraordinaires. Bon, eh bien, on a compris énormément de choses et pourtant, on a découvert en même temps un nombre de questions absolument saisissantes. Alors, pour l'univers, par exemple, donc on a découvert que l'univers était le résultat d'une grosse explosion qu'on appelle le Big Bang. On sait il y a combien de temps ça s'est passé, 13,7 milliards d'années. On sait donc que toutes les galaxies, les étoiles et tout ça s'enfuient dans tous les sens. Bon, mais voilà, on a découvert...
Ouais, oui. On sait que l'univers n'est pas stable.
Ah oui, effectivement. Et donc, ça fait partie des choses qui, à mon avis, changent la vie. Pendant longtemps, et d'ailleurs, même Einstein lui-même, il croyait que tout ça, c'était fixe, stable. Hein. D'ailleurs, c'était sans doute rassurant de penser que, comme tout est stable, eh bien, la vie est stable aussi. Donc, on en a pour l'infini, et donc, ça ne va jamais changer. Et puis, en fait, au XXe siècle, on s'est aperçu que l'univers n'est pas stable, il s'enfuit dans tous les sens. L'univers a un âge, le système solaire et la Terre aussi, d'ailleurs, qui est trois fois moins. On est trois fois plus jeune que l'univers. Bon. Et donc, tout ça, c'est provisoire, en fait. Et l'idée que bon, on est dans un monde provisoire et non pas dans un monde éternel, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi,
philosophiquement,
ça change
beaucoup de choses. Ben, oui.
Ça change beaucoup de choses. Mmh. Alors, pour finir, pour une espèce de tentative de réponse à votre question... On a donc découvert que tout l'univers s'enfuit, mais s'enfuit à une vitesse qui est de plus en plus grande. En fait, l'expansion accélère. L'expansion accélère comme s'il y avait une force mystérieuse qui tire sur l'univers dans tous les sens et qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'énergie noire. Noire parce qu'on ne la voit pas et puis noire parce qu'on ne la comprend pas. Et là, c'est une question très récente hein, qui date d'il y a quelques années à peine.
Oui.
Et c'est un grand défi à tous les cosmologues, physiciens de toutes sortes, bon, et même au-delà. Quelle est l'origine, quelle est la nature de cette énergie noire qui tire sur l'univers, qui fait que l'univers a une expansion qui s'accélère? Vous voyez à quel point, en découvrant le Big Bang, etc., en fait, on révèle une autre question encore plus difficile et encore plus mystérieuse. Bon, c'est un exemple, il y en a plein d'autres.
Alors, si, vous savez, si on descend dans la rue, si on demande de citer un grand scientifique de l'époque, on va dire Einstein, ça serait qui aujourd'hui à citer en 2008 Sébastien.
Qui c'est le numéro 1 au hit parade
? Non, mais comme ça, l'homme clé qui a ouvert tellement de...
Je ne sais pas. Moi, j'ai tellement de héros que je me refuse à en choisir un. Quand on me pose cette question, en général, je réponds par une pirouette. Je demande... Et si on vous demandait si les plus jolies femmes sont blondes ou brunes, qu'est-ce que vous diriez? Moi, j'aime bien les deux.
Bon, alors, on va clore la question. Et puis, je vais vous proposer Sébastien Balibar. Donc, je le redis, hein, Je casse de l'eau, un petit livre vraiment superbe. Et autre rêverie scientifique aux éditions du Pommier. Je vais vous proposer, ainsi qu'à nos auditeurs, d'aller écouter des enfants et une physicienne avec Lydia Gabor qui nous propose une visite à l'espace des inventions. C'est à la Vallée de la Jeunesse à Lausanne. Et l'exposition est intitulée « De temps en temps ». Elle dure jusqu'en juillet 2009. Elle essaie de sensibiliser le jeune public à tous les aspects du temps des saisons. Je n'ai pas le temps. Et donc, on suit Emmanuelle Giacometti, physicienne et directrice de l'espace des inventions, en compagnie de deux classes primaires avec des élèves de 7 à 8 ans.
Au prochain top, il sera exactement...
À vos marques.
Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce tunnel? Oui.
On entend tout parce qu'il y a plein de...
Il y a plein de sons différents. Ouais, tu as raison. Qu'est-ce que vous avez entendu comme son, que vous avez reconnu, des sons que vous connaissez peut-être? Oui.
Les cloches qui sonnaient.
Les cloches qui sonnaient. Pourquoi les cloches sonnent?
Pour nous dire à peu près quelle heure c'est.
Alors, il y a les clochers des églises qui sonnent. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre manière de savoir l'heure qu'il est.
Avoir une montre.
Avoir une montre. Est-ce que les hommes ont toujours eu des montres ?
Non. Ils utilisaient les cadrans solaires. Puis c'était l'ombre de l'aiguille qui indiquait l'heure.
Qu'est-ce que ça utilise, les cadrans solaires, pour savoir l'heure qu'il est ? Ça utilise quoi ?
Le soleil.
Le soleil. Qu'est-ce qu'il fait le soleil dans le ciel ? Quelqu'un me montre avec le bras. On n'a pas pour objectif absolument qu'ils sortent tous de là en ayant tout compris, mais on a plutôt envie d'allumer des cases, de leur donner envie. Donc on essaye de concevoir nos expositions en jouant entre le jeu et l'expérience et la curiosité, et de stimuler un petit peu l'envie des enfants toujours de toucher, de manipuler et d'aller plus loin. C'est un peu une tension comme ça entre le jeu et le sérieux, si on veut bien. Est-ce que vous savez quel est le jour de l'année où le soleil est le plus bas ? C'est le premier jour de l'hiver. C'est quand le premier jour de l'hiver ? C'est juste avant un jour que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Le 21 décembre.
Ouais, bravo, c'est juste, c'est le 21 décembre. Juste avant Noël. Et là, après le soleil... Je suis Emmanuelle Giacometti et je suis la directrice de l'Espace des Inventions.
Et vous avez quelle formation ?
Alors, je suis physicienne. Et ça fait maintenant bientôt 10 ans, pas tout à fait, que je travaille ici, dans l'idée d'éveiller l'intérêt des enfants pour tout ce qui est scientifique et technique, d'avoir envie de connaître, découvrir le monde et la chose scientifique.
Quelle est la partie la plus accessible pour eux ? Ils ont 7-8 ans, je crois.
Oui. Ce qu'ils aiment le plus, c'est se mettre en scène, eux. Donc on essaye toujours dans nos expositions d'avoir une ou deux expériences où ce sont eux qui se... testent ou qui essayent ou qui font. Et ça, eh ben, on voit que c'est ce qui marche le mieux. Après, ce qu'ils en retiennent, moi, je suis extrêmement modeste. Mon envie, c'est qu'ils se souviennent qu'ils ont passé un bon moment et que la science n'est pas équivalent à quelque chose d'ennuyeux et qu'après, ils aillent plus loin. Mais certains d'entre eux savent déjà beaucoup de choses et apprennent beaucoup de choses et retiennent étonnamment de choses.
Alors, souvent, vous donnez des explications assez physiques, je veux dire, vous mimez avec le corps, par exemple.
Oui, parce que, de mon point de vue, c'est ça qui leur parle. Donc, ça sert à rien à cet âge-là d'en faire des grandes théories. Il faut qu'ils sentent les choses qui... Et de nouveau, ils ne sont pas à l'école, ils sont dans un moment un peu à part. Donc moi, j'essaye dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours possible, mais de faire appel un petit peu à leurs tripes et à leurs mains, parce que c'est ça qu'ils vont retenir.
À vous, Marc.
Le temps d'un geste. Il y a des petits plots, et puis on doit appuyer sur un bouton rouge, et puis on doit tourner les petits plots en moins de secondes.
Le moins de secondes possible.
Ouais.
Alors vous faites une fois. Allez-y.
Go.
Tu as mis combien de temps ?
9 secondes.
9 secondes. Elle va vite.
Pour moi, la question, c'est d'observer le monde, de se poser des questions, de se dire, mais tiens, pourquoi il se passe ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est d'être curieux. C'est ça que moi, j'aimerais donner, l'envie que j'aimerais donner aux enfants qui viennent ici, c'est d'être curieux et de se dire, mais tiens, je me demande pourquoi, quand je lâche ce caillou, il tombe, et j'ai envie de savoir pourquoi. Je ne vais pas m'arrêter en me disant, il tombe, ok, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Essayez d'aller au-delà de ça, mais de garder la curiosité. Parce qu'on prend notre voiture bien souvent, on utilise tous des téléphones portables, mais bien peu d'entre nous seraient capables de savoir comment ça marche et encore moins de les réparer. Donc de garder cette curiosité, ça me semble une bonne chose pour comprendre le monde qui nous entoure de tout point de vue.
Ici, on est où, mademoiselle ?
On est sur le soleil et les saisons.
Qu'est-ce que vous avez retenu ?
On a retenu que... le soleil il bouge, à chaque saison il est un peu plus loin, il bouge à chaque fois un peu plus.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme rythme ?
Les saisons.
Et quand il y a combien de saisons ?
4.
Quand on a fait tout le tour, qu'on a fait les 4 saisons, on a fait quoi ?
Une année.
Une année. C'est quoi une année ?
C'est 12 mois.
Toi tu vas venir là. Tu vas être le soleil, d'accord ? Et moi, je suis la Terre. Et la Terre, elle tourne autour du soleil et ça fait les années. Ce qui fait que les hommes, avant d'avoir des montres et des ordinateurs et tous ces engins bien utiles, simplement en observant le soleil, ils pouvaient déjà savoir plein de choses sur les rythmes.
Au prochain
sera exactement 10h33min 0s.
En fait, attention, il est 10h45, mais l'espace des inventions, c'est à la Vallée de la Jeunesse à Lausanne. Reportage de Lydia Gabor réalisé par Carmen Algarada. On peut vous imaginer que cette façon de susciter la curiosité des enfants vous séduit, Sébastien Baliba?
J'adore. C'est merveilleux. Faudrait vraiment féliciter ces gens le plus fort possible. J'adore ça. C'est exactement ça que j'ai envie de faire, à ma manière qui est un peu différente, mais la leur est beaucoup plus utile, efficace, justement parce que les enfants, on entend, ils sont là, ils manipulent, ils touchent, ils jouent, et surtout, ils éveillent leur curiosité. Je crois que la curiosité, c'est le début de toute la science. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais appelé mon livre précédent « La pomme et l'atome », parce que la pomme, c'est le symbole de la curiosité, pour moi. Et donc, c'est de vous dire à quel point j'apprécie ce genre d'expérience et d'activité.
Sébastien Balibar, quand vous aviez, vous, 8 ans, vous aimiez la physique déjà ?
Je me suis beaucoup posé la question parce que quand on commence à vieillir, on regarde derrière et puis on se demande, effectivement. Oui. Je crois que quand j'avais 8 ans, j'aimais la nature. En tout cas, j'aimais observer la nature, les papillons, les cristaux, tout ça. Bon.
Les cristaux.
Mais j'avais... Ah oui, j'avais une passion pour les cristaux, un petit peu plus tard, mais j'aimais bien regarder par terre, ramasser des cailloux, et quand ils avaient une forme géométrique un peu particulière, ça m'intriguait, je me disais, tiens, pourquoi ils sont comme ça, comme les cristaux de quartz avec 6 faces Plus tard, j'ai fait de la montagne, assez difficile, je ramassais des vrais cristaux de quartz que j'offrais à ma mère, c'était une façon de faire pardonner parce qu'elle était terrorisée que je sois en train de grimper en haute montagne, alors je lui rapportais des cadeaux. Mais j'ai compris seulement plus tard, c'est-à-dire quand j'étais déjà étudiant, qu'il y avait moyen de comprendre la nature, pas seulement de l'observer, et là, ça m'a vraiment pris et j'en ai fait mon métier. Mais donc, quand j'avais 8 ans, je vous dis, j'observais la nature, mais j'avais pas encore compris que c'était ça la physique. Ouais.
Peut-être que vous aviez pas un bon prof de physique ?
Ah, la question de l'enseignement de la physique, j'ai d'ailleurs mis un doigt là-dedans parce que pendant une année et demie, j'ai essayé de faire que l'enseignement de la physique en France soit un peu moins rébarbatif. Je crois que la physique n'accroche pas bien les enfants, je le regrette infiniment. Et il me semble que l'une des raisons, c'est que on apprend par cœur des choses abstraites au tableau. Mettons, on apprend la loi d'Ohm, que la tension électrique est proportionnelle au courant et à la résistance. Et puis après, on fait une expérience, genre presse-bouton. Alors on a des petites boîtes, on appuie sur un bouton, on voit qu'effectivement, la tension est proportionnelle au courant. Mais ce n'est pas ça la physique. La physique, c'est à l'envers. Il faut commencer par observer un écoulement, alors ça peut être un courant électrique, mais ça pourrait être de l'eau dans un tuyau. Bon, il faut se poser des questions, pourquoi ça coule, à quelle vitesse, et si je monte davantage mon tuyau, est-ce que ça coule plus vite, tout ça. Bon. Et puis après, il faut tirer des lois simples à partir de l'observation de phénomènes naturels compliqués. C'est ça, là. Bon, donc, j'ai essayé de mettre les choses à l'envers dans les nouveaux programmes de la physique, au moins au lycée en France. Bon, j'ai eu plus ou moins de succès, mais le chemin à parcourir est encore très long et je crois que malheureusement, la physique est toujours un peu difficile d'accès et pas très motivante pour les enfants.
Donc, faut vous lire.
C'est difficile, oui. Pardon ?
Donc, faut vous lire. Je casse de l'eau.
Ah, alors, oui, je me rappelle l'année dernière, j'étais passé à France Inter et le journaliste, il m'a dit, mais vous savez, je regrette de ne pas vous avoir eu comme prof. J'ai pris ça comme un compliment.
Alors, je fais les petits-enfants qui étaient avec Emmanuel Giacometti et je vous dis, mais monsieur Balibar, ça ne se casse pas de l'eau, on ne peut pas la casser.
Ah oui. Ben, mon titre est un peu énigmatique, je ne sais pas s'il est réussi. J'ai eu envie d'intriguer un peu en prenant ce titre. Mais en fait, c'est pas très loin de la réalité de ce que je fais moi-même dans mon laboratoire. Vous savez, l'eau, c'est évidemment le liquide le plus important de toute la nature, sans lequel il n'y aurait pas de vie, tout simplement. Mais c'est aussi le liquide le plus complexe, ou compliqué, si vous préférez.
Bon. Vous dites même anormal, c'est un liquide
oui,
anormal.
Oui, effectivement, il est tellement complexe qu'il est anormal. L'une des raisons pour lesquelles il est anormal, vous savez, c'est que les glaçons flottent, en somme. Parce que vous savez, d'habitude, les solides sont plus denses, donc plus lourds, que les liquides correspondants. Mais l'eau, c'est le contraire, les glaçons sont plus légers que l'eau et c'est pour ça qu'il flotte. Alors ça va du glaçon dans votre verre de jus de fruits ou de whisky, je sais pas, jusqu'à la banquise au pôle Nord qui flotte sur l'océan. Bon. Et donc c'est anormal, mais on comprend assez bien pourquoi. J'explique, c'est une histoire de molécules qui se tiennent la main. Je fais une petite, j'aime bien les métaphores et j'explique que les molécules, c'est comme des enfants qui font la ronde. Les molécules d'eau, hein, bien sûr, elles ont deux mains, deux pieds, elles se tiennent par la main et quand elles se tiennent par la main, elles font la ronde et donc au milieu de la ronde, il y a un grand trou. Mmh. Et c'est pour ça que quand elles se ferment en faisant la ronde, ce qui fait de la glace. Eh bien, il y a un grand trou au milieu, donc la glace est finalement moins dense que l'eau où les molécules se tiennent pas par la main, donc sont pas forcées à faire un trou au milieu. Bon, je raconte ça à toute vitesse, c'est dommage, il vaudrait mieux lire mon petit chapitre là-dessus.
Mais on le dira. Mais
c'est la raison pour laquelle l'eau est effectivement anormale, c'est la manière dont les molécules s'attachent les unes aux autres est très particulière. Alors, pour comprendre, je tire dessus, pas comme je tirerais sur un morceau de bois en mettant les deux mains en tirant fort, mais avec des ultrasons, donc des ondes sonores haute fréquence très intenses, qui en fait essayent d'écarter les molécules, et il y a un moment, les molécules cèdent, elles s'écartent vraiment, ça fait une bulle. Et c'est une manière de casser de l'eau avec des ultrasons, et c'est ça qu'on fait dans mon laboratoire avec mes étudiants, pour mieux comprendre la structure de l'eau qui continue à résister. On parlait tout à l'heure des questions qu'on ne comprend pas.
Ouais, ouais.
C'est quand même irritant, mais au XXIe siècle, on fait des choses très difficiles, très compliquées, et pourtant la structure de l'eau, ben, on continue à ne pas comprendre. Donc nous, on voudrait comprendre. Alors on tire dessus, on casse de l'eau et puis on va peut-être comprendre.
On comprend toujours pas la structure de l'eau.
Et non. C'est irritant, hein, vous êtes d'accord, hein. Ouais. Ouais. L'eau est un liquide tellement compliqué que on n'est pas d'accord. Bon, alors par exemple, on comprend pas justement quand on tire sur l'eau, donc moi je tire sur l'eau avec des ultrasons, à quel seuil, au-delà de quelle force, si vous voulez, il apparaît vraiment une bulle. Eh bien, c'est une pression négative. Alors, ça me donne l'occasion dans le livre de parler du fait que les arbres font des embolies. Qu'est-ce qui limite la hauteur des arbres, hein? Question bête, hein, mais pas si simple. Hein.
Alors, qu'est-ce qui limite la hauteur des arbres?
Eh oui, pourquoi il y a des arbres qui sont plus grands que d'autres, hein? Eh bien, justement, c'est parce que l'eau casse dans le sommet, ça fait des bulles et l'arbre fait une embolie, et l'embolie tue les feuilles qui sont au-dessus. Mais bon, là, j'ai pas bien le temps d'expliquer ça en détail, mais je trouve que c'est une belle question. Je vous écoute.
Je vois que vous prenez pas le temps, mais c'est vrai, en fait, nos auditeurs se replongeront dans votre livre, puis ils auront tout le temps d'explorer. Ils auront tout le temps aussi d'entendre pourquoi les crevettes font du bruit dans le golfe du Mexique.
Et oui, c'est encore des histoires de bulles, ça. Il y a des petites crevettes qui ressemblent plutôt à des langoustines, d'ailleurs, à mon avis, qui ferment leurs pinces très vite, hein. Et en fermant leurs pinces très vite, elles font un jet d'eau de mer. Bon, et ce jet est tellement violent que lui aussi, il étire l'eau à l'endroit du jet. Bon, et il étire tellement fort que ça fait une bulle, effectivement. Et puis la bulle, après, elle grossit, puis elle rétrécit, elle implose, comme on dit. Et en implosant, elle fait un petit bruit clic comme ça. Bon, ça s'entend. J'ai entendu le bruit. Simplement, quand il y a des colonies de crevettes qui font des millions de crevettes, qui font clac, clac, clac tout le temps avec leurs pinces, ça fait énormément de bruit. On a découvert ça récemment. Et donc, je m'amuse parce que ça fait tellement de bruit sous-marin que sous l'eau, que les militaires qui écoutent les sous-marins, ça leur fait du bruit de fond. Ça les empêche d'entendre les sous-marins qui arrivent. Donc, ça m'amuse. En fait, elles font même de la lumière, d'ailleurs. Mais là, il faut lire mon petit chapitre sur les crevettes.
Je vais vous inviter à écouter ceci, Sébastien Malibar. Ah.
Qu'est-ce que c'est, Sébastien Malibar ?
Ah, c'est mon concerto en ré mineur. C'est le 20e concerto de Mozart. Je ne sais pas qui joue, à propos, j'aimerais savoir.
Alors, je vais vous dire qui joue. C'est une japonaise, Fumiko Shiraga.
Ah, très bien, je ne connais pas, mais elle joue très bien.
Alors, bon. Pourquoi j'ai mis ça, à votre avis ?
Eh bien, parce que vous avez lu mon livre et vous savez à quelle place immense la musique tient dans ma vie. Et donc, en fait, mon père jouait ce concerto quand j'étais petit. J'étais allongé sous son grand Steinway et j'écoutais mon père qui jouait ses syncopes avec ses triolets qui roulent et tout ça. Et ça me bouleversait. Et là, quand vous m'avez mis cette musique, j'en avais des frissons partout. Parce que je ne sais pas, quelque chose de magique dans cette musique qui m'émeut profondément et c'est ce qui a décidé de ma passion pour le piano et pour la musique en général, où il y a de la science insolite à propos, dont à laquelle je fais allusion par-ci par-là dans mon livre.
Et puis vous parlez beaucoup de l'oreille absolue justement dans le livre.
Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui m'intrigue, vous savez, là, quand vous écoutez une note de musique, bon, sauf des musiciens professionnels, et à mon avis, c'est parce qu'ils ont commencé à apprendre la musique très tôt. On ne sait pas si c'est en sol ou en la ou en ceci, a fortiori en fa dièse. Bon, mais en revanche, quand vous regardez une couleur, vous savez très bien si c'est rouge ou si c'est bleu. Et même à l'intérieur du rouge, vous allez reconnaître un rouge carmin, d'un rose indien. On a l'œil qui reconnaît absolument telle ou telle couleur, alors que l'oreille, c'est plus difficile. Et donc, je me suis amusé à réfléchir au fait que peu de gens ont l'oreille absolue et presque tout le monde a l'œil quand même beaucoup plus absolu. Alors, pourquoi est-ce qu'on reconnaît mieux les couleurs que les sons ? C'est pas clair, c'est pas facile. Ça doit être une question d'évolution, mais en tout cas, j'ai trouvé que la question méritait d'être posée. Voilà, donc j'en parle un peu.
Ce papa,
alors, mon père, il avait l'oreille absolue. Ouais, moi, voilà, j'étais très jaloux parce que lui, il entendait. Et je crois que c'est parce qu'il avait commencé le piano à 3 ans et que moi, j'ai commencé beaucoup plus tard. Donc, c'était trop tard pour adapter mes neurones et tout ça. Voilà.
Alors, je le redis à nos auditeurs, un mélange de biographie et d'expérience physique, de physique pure, dans ce livre. Je redis que ça s'appelle Je casse de l'eau et c'est aux éditions du Pommier. Et il vous arrive de faire, vous, des conférences pour les enfants ?
Ah oui, j'adore ça, oui, pas autant que je devrais peut-être, mais je vais dans les petites classes, j'ai eu des enfants à partir de 5-6 ans jusqu'à des étudiants de 18, je suis allé en collège, en lycée, en école maternelle, et avec les enfants on a fait plein d'expériences justement, ça me rappelle Madame Giacometti tout à l'heure, c'est important que les enfants touchent, et donc on a fait des expériences sur le froid et le chaud avec ces enfants, ils ont adoré ça, je leur ai amené de l'air liquide, on a cassé des fleurs, on a fait rouler de l'air liquide par terre, c'est très très spectaculaire ça.
Mais, ça fait quoi?
Eh bien, ça fait de la caléfaction. C'est la même chose que ce qui se passe que si vous mettez une goutte d'eau sur une plaque électrique, vous savez, la goutte d'eau flotte sur sa vapeur parce que la plaque est chaude, donc la goutte d'eau s'évapore près de la plaque électrique. Et comme elle flotte sur sa vapeur, elle frotte presque pas, donc elle est très très mobile. Eh bien, si vous versez de l'air liquide qui est très froid sur le sol de la pièce qui, lui, est raisonnablement chaud, eh bien, les gouttes d'air liquide flottent et elles se promènent partout. C'est très spectaculaire à voir. Et c'est le même problème, c'est des histoires de gouttes qui flottent sur leur vapeur. Oui. Alors ça a beaucoup plu aux enfants. Mais...
Vous avez demandé parce qu'il y a des dessins de Jean-Ker Leroux, qui est le dessinateur du Canard Enchaîné, vous lui avez demandé de dessiner une goutte d'eau, vous êtes bagarré sur comment la dessiner.
Oh, ça a été très difficile, ça, oui. Mais ça m'a amusé parce que quand je lui ai demandé une goutte d'eau, il a dessiné une goutte pointue. Et donc, ce faisant, il a fait en fait comme les dessinateurs font en général, ils dessinent des gouttes pointues. Or, les gouttes d'eau qui tombent, la pluie par exemple, les gouttes sont rondes, sauf si elles sont très grosses, auquel cas elles éclatent. Bon. En fait, elles sont pointues si elles glissent sur une fenêtre en pente, par exemple. À ce moment-là, il y a une petite queue pointue derrière et puis c'est rond devant. Mais pour donner une impression de mouvement, je suppose que les dessinateurs, en général, ils dessinent des gouttes pointues. Alors, on s'est amicalement bagarré sur la forme des gouttes.
Bon, alors, Sébastien Malibar, on se quitte maintenant. Vous avez raconté en détail sur Impatience, l'émission scientifique à 17h, quelques-unes des histoires où j'avais l'impression que je devais me battre pour que vous nous les racontiez. Mais en tout cas, on peut vous lire. Hein, vous vous lire. C'est Je casse de l'eau et autres rêveries scientifiques aux éditions du Pommier. Je vous souhaite un beau week-end, Sébastien.
Merci infiniment, Madame Caboche. Merci.
Pour obtenir une copie de cette émission, composez dès maintenant le 026 323 24 24.
Il est 11h sur la première.